Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Amenez-les aussi, c'est bien comique. Moi, j'aimerais bien jouer à la cuillère, là, puis à des jeux qu'on a l'habitude de jouer, des jeux de groupe. Ça va être le fun. C'est aussi un message, le 31, c'est un message sur souvent la défense de la foi, soit de l'archéologie, soit ce que les autres en ont dit, des témoignages qui confirment soit le personnage historique de Jésus-Christ, soit ses miracles, soit les Écritures. Comment elles sont une source fiable de connaissances. Fait que c'est aussi, si jamais vous avez de la parenté qui est à la maison, c'est un message qui est adapté aussi pour n'importe qui là, qui serait là, le 31. Le 24, c'est sûr que c'est aussi un message sur la nativité. On continue un petit peu une série que j'ai commencé la semaine passée. Aujourd'hui, on va être dans Luc chapitre 2. Puis le 24, on va continuer, probablement avec l'image, puis encore des accomplissements prophétiques. Fait que ça va être encore une très bonne façon de partager votre foi. Seigneur Jésus, je te présente ce message. Permets, Seigneur Dieu, que je puisse en parler dignement, Seigneur Dieu, en conformité avec ce qui a été révélé. Afin que ta parole, Seigneur Dieu, soit la substance de mon message et puis que ça puisse venir édifier ceux qui l'entendent. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va lire chapitre 2 de Luc. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 20. Il y avait dans les mêmes régions des bergers qui passaient toute la nuit des champs. Dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez le nouveau-né enveloppé dans des langes, et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu en disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur terre et bienveillance parmi les hommes. » Vous avez dans la Louis II, « Parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Et Marie gardait le souvenir de tout cela et méditait dans son cœur. Puis les bergers repartir en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors, c'est la visite de l'ange. Le titre de ma série, c'est « Annonciation ». On a vu la semaine passée qu'il avait annoncé la venue du Messie à Marie. Aujourd'hui, Dieu se fait attendre par des bergers. On a vu la semaine passée dans mon message que ce n'est pas tout que le roi vienne. Il fallait que le roi soit attendu aussi. Donc, il était annoncé d'avance et on devait se préparer pour sa venue. Et ceux que Dieu trouve pour pouvoir accueillir son fils, c'est des bergers. Laissez-moi vous parler un petit peu des bergers. Les bergers veillaient toute la nuit avec leurs brebis, souvent servaient de porte. C'est-à-dire qu'ils les amenaient à un endroit où les brebis ne pouvaient pas aller nulle part que par passer par le berger. Comme ça, ça les protégeait des prédateurs. Et les bergers donnaient leur vie pour leurs brebis d'une certaine manière. Puis, ces bergers-là restaient à 5, 6, 7 kilomètres maximum de Jérusalem. Puis, on faisait affaire avec eux pour les brebis du sacrifice, les sacrifices qu'on avait là, à chaque année là, à Pâques. Et donc, eux étaient principalement les éleveurs de ces brebis-là. Et la gloire de Dieu visible leur apparaît et les environne. C'est écrit que la gloire de Dieu les environna et que là, l'ange s'est mis à leur parler puis lui a dit de ne pas avoir peur. Parce qu'il y a toujours l'idée, le juif sait que s'il voit Dieu, il peut mourir. Tu sais. Fait que, il y a cette crainte-là d'être dans la présence de Dieu puis d'avoir peur. Tu sais. Alors, il leur dit de ne pas avoir peur, que le Sauveur vient de naître dans la ville de David et il leur dit que ce Sauveur-là, c'est le Messie d'Israël, c'est le Sauveur du monde. Et donc, la question que je me suis posée tout au long de cette préparation-là et que je vais vous poser durant mon message, c'est pourquoi il apparaît à des bergers, des pauvres bergers, puis il joue à cachette avec les mages. Et les mages, on va en parler la semaine prochaine, mais c'est intéressant. Il joue à la cachette avec les mages, mais il se laisse trouver. Il joue à cachette parce qu'il y a un astre qui est pas loin, là. Mais ça, c'est plus tard, c'est dans 2 ans, de toute façon. Mais il y a comme un parallèle à faire qui est bien intéressant. J'aimerais vous parler des bergers au temps de Christ, puis on parlera plus des mages la semaine prochaine. Mais dans son livre « Viens, Messie tant attendu » de Nancy Guthrie, elle parle des bergers au temps de Jésus, puis elle dit que les bergers au temps de Jésus étaient en bas de l'échelle de la société. Ils partageaient le même statut que les publicains. Ils n'avaient pas le droit d'entrer au temple. On ne devait pas rentrer en contact avec eux, si possible, pas faire affaire avec eux parce que c'est des voleurs. On les considérait comme des voleurs, des gens que si tu as acheté de quoi, tu ne sais même pas si c'était quelque chose qui était volé. Et pourtant, on les utilisait pour le bazar de Anne, pour les brebis du temple. S'ils tombaient dans un trou, là, eux autres, tu n'avais pas besoin de les sauver. Tu n'avais pas le devoir moral d'aller les secourir. Ils n'avaient pas de droit en cour et puis leur témoignage n'était pas valide en cour non plus. Ils étaient surnommés les pêcheurs et on leur interdisait de pratiquer leur métier, sauf dans les plaines du désert. Donc, c'est pas partout qu'en Israël, au temps de Christ, on pouvait être berger. Nous, on a une bonne image du berger parce qu'on voit Jean 10, Jésus est le bon berger. On a le psaume 23, eux autres aussi, ils l'avaient. D'ailleurs, dans ce temps-là, les écrits rabbiniques disaient « on ne comprend pas pourquoi Dieu dit qu'il est notre berger ». Parce que c'était tellement mal vu d'être un berger que le psaume 23 qui dit « l'Éternel est mon berger, tu sais, il prend soin de moi », tout ça. Les rabbins disaient « on ne comprend pas que Dieu dit qu'il est notre berger », puisque c'était très mal vu à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que les anges s'arrêtent à ces marginalisés-là de la société, à ceux qui sont mis à l'écart dans la société, bien, ça me fait réfléchir et ça me fait réfléchir au monde dans lequel on vit. On vit dans un monde où il y a des divisions entre des hommes et d'autres hommes, et l'homme fait des démarcations pour se justifier. Quand on est ado, par exemple, on va rejeter d'autres ados. Il va y avoir des pressions de groupe comme ça pour appartenir à un des groupes. Hein? On va se comparer souvent dans une justice relative. Et quand on le fait devant Dieu, ben, à quelque part, quand on en voit un qu'on pense être pire que nous, d'une certaine manière, on est capable de dire, ben, moi au moins, je ne suis pas si pire. Mais tu sais, quand on se compare à Dieu, on est tous là et on dit, je suis disqualifié. Mais quand on se compare à un autre, on se console. Tu sais. Et donc, chez les hommes, il y a ça. Et au temps de Christ, il y a plusieurs démarcations comme ça dans la société juive. Il y en a envers les femmes. Il y en a envers ceux qui ne sont pas juifs. Il y en a envers ceux qui sont pauvres. Il y en a envers ceux qui sont malades. Il y en a envers beaucoup de... Il y a beaucoup de divisions parmi les hommes. Et aujourd'hui, je n'ai jamais fait un message sur l'incarnation de Jésus dans l'optique que Jésus est venu sauver la société ou que Jésus est venu sauver les gens de la société ou dans la société, qui souffrent dans la société. Puis, sérieux, plus que je lis Luc, plus je m'aperçois que le Sauveur qu'on a, il n'est pas juste venu nous sauver de nos péchés, mais il est venu nous sauver dans une société injuste, dans un monde où ce que le péché a fait sa demeure, dans un monde où les cœurs sont brisés, les familles sont brisées, les vies sont brisées, Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont mis à l'écart. Et le fait qu'il apparaisse à des bergers, ce n'est pas pour rien. Il y a une raison pour ça. Et on va essayer de la trouver ensemble aujourd'hui. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais peur d'être rejeté, fait que je rejetais quelqu'un qui était plus méprisable que moi. Et j'amenais les gens à faire la même chose. J'étais un « bully », comme ils disent en anglais, un intimidateur. Peut-être pas à prendre le lunch d'un jeune, puis à faire, tu sais, aller jusqu'au bout comme ça. Mais un des traits que l'Évangile est rentré dans mon cœur, c'est que j'étais plus capable de faire ça après. Puis, un jour, je me rappelle, il y avait ce jeune-là qui était dans sa chambre, puis je vous l'ai souvent compté, il y avait la fenêtre au-dessus dans le couloir, puis les jeunes, ils pitchaient du papier de toilette, puis ils trouvaient ça drôle, tu sais. Moi, j'étais le premier à trouver ça drôle. Avant, je mettais du X-Lax dans son lait, tu sais, pas du X-Lax, mais du laxatif dans son lait. Je servais le lait à l'école, tu sais, puis on faisait des mauvais coups, tu sais, du miel après son cadenas, toutes sortes d'affaires comme ça, une paire de bobettes sales sur son oreiller, tu sais, tout des gars de collège, tu sais, qui se font du fun, mais souvent au détriment d'un plus faible, tu sais. Puis, cette journée-là, je n'étais pas capable d'être du côté ici, dans le couloir, fait que j'ai rentré, puis je suis allé m'asseoir avec le gars pour voir comment on vivait ça de l'autre bord. Et ça m'a tellement fait quelque chose que je n'ai pas été capable d'aller à l'école le restant de l'après-midi. Je suis allé dans la forêt m'asseoir, puis je suis allé vider mon cœur devant Dieu. Ça, ça me montre quelque chose, ça vient illustrer. Si je vous l'ai déjà compté, ce n'est pas grave. Bien, c'est peut-être que vous dites, « Ah, tu nous as déjà compté ça. » Mais là, pourquoi je l'amène, c'est parce que je pense vraiment que l'Évangile vient nous transformer la manière qu'on va vivre en tant qu'homme sur la terre. Et nous, les chrétiens, on voit souvent qu'on a besoin d'être sauvé parce qu'il faut aller au ciel, mais on a besoin de plus que ça, on a besoin d'être sauvé dans un monde sans Dieu. Et parce que ce monde sans Dieu-là fait des victimes. Et j'ai besoin d'être pardonné pour ces gens-là que j'ai blessés, bien sûr. Donc, premièrement, j'aimerais amener l'idée que si l'ange apparaît à des marginalisés, à des gens qui ont été mis à l'écart de la société, c'est parce que les marginalisés comprennent. Par exemple, on voit dans Luc 15 et que les marginalisés, ces gens-là de mauvaise vie, étaient, quand on voit gens de mauvaise vie dans la Bible, on peut considérer prostituées, publicains, puis aussi les bergers. OK? On les voit assis dans les premières rangées quand Jésus passe. C'est des gens qui veulent comprendre. En tout cas, regarde ce qui est écrit au chapitre 15 de Luc. « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient et en disant, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie, et il mange avec eux. » Et là, Jésus va leur dire une parabole. Ça, c'est intéressant parce que les trois paraboles qu'il va leur dire, c'est la parabole de la brebis perdue, le berger qui va retrouver sa brebis qui était perdue, la drache perdue, puis c'est quoi l'autre? Le fils prodigue. Trois histoires qui montrent qu'il y a quelque chose qui a été perdu, une drache, peut-être par négligence, une brebis qui s'est perdue par sa stupidité, puis un fils qui s'est perdu par sa rébellion. Mais peu importe la raison pour laquelle ils ont été perdus, les trois histoires amènent un emphase sur la joie que quand quelque chose est perdu et tu l'as retrouvé, tu es content de l'avoir retrouvé. Et il dit ces trois histoires-là parce qu'eux, ils disaient, voyons donc, ils accueillent des gens de mauvaise vie. Oui, mais c'était des gens qui étaient contents d'avoir retrouvé le pardon, qui étaient contents d'avoir retrouvé Dieu. Il avait été stupide, il avait fait des mauvais choix, mais il avait retourné à Dieu. Il avait perdu par négligence la parole de Dieu, il s'était éloigné de la parole de Dieu par négligence, mais ils avaient la joie d'avoir retrouvé Dieu. Ils avaient été rebelles, ils s'étaient rebellés contre la parole, mais là, Dieu leur offrait encore une chance d'écouter sa parole puis de revenir à lui, tu sais. Puis Jésus, les trois paraboles, c'est il y a tellement de joie pour cette femme qui a trouvé sa drache perdue, tellement de joie pour le berger d'avoir retrouvé sa brebis qui s'était perdue, il y a tellement de joie pour le père de retrouver son fils qui s'était perdu. Et ici, ce que Jésus voulait faire dans l'Évangile de Luc, principalement dans l'Évangile de Luc, c'est de montrer qu'il y a une joie de la part de Dieu d'aller récupérer ceux que la société a mis de côté aussi. Et Luc, particulièrement parmi les quatre évangélistes, il nous amène cette optique-là. Et c'est ce que je vais développer tout au long de mon message. Qui de plus sensible que les marginalisés, OK, ceux qui sont mis en marge, pour comprendre que celui dont la demeure est dans les lieux très hauts, on ne trouve pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Hein, parce que c'est écrit que Marie est arrivée avec Joseph, puis elle était sur le point d'accoucher, puis il n'y avait même pas de place dans l'hôtellerie pour lui. Donc, il y avait quelque chose des histoires qui se ressemblent. Là. On a quelqu'un qui ne fit pas. Ou quelqu'un qu'on n'a pas préparé de place pour lui dans notre société. Et notre Créateur, ben c'était ça. On n'avait pas de place pour lui. La place qu'on avait pour lui, c'était une grotte ou une crèche et un plat de nourriture pour animaux pour faire son lit. Les signes qui allaient être reconnus, c'est qu'il allait être dans une crèche, puis qu'il allait être emmailloté ou enfiroppé dans des linges de linceul, c'est-à-dire des linges qu'on donnait à des morts. D'autres années, j'ai parlé de du fait que c'était un endroit, justement, où on enterrait, où on plaçait des corps en dehors de la ville. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment vers ça que je veux aller. Une autre raison pourquoi il apparaît à des bergers, puis pas nécessairement à des hommes de la parole, ben c'est que les bergers comprennent. Bon, ils étaient des marginalisés, mais ils étaient aussi des bergers. Pour expliquer ce qu'est un sauveur, l'image du berger est très appropriée. Dans Luc 10, dans Luc 2, au verset 10, le passage qu'on a lu, il dit « L'ange leur dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Un sauveur, bien, une brebis, ça a continuellement besoin d'être sauvé. Et c'est là que je veux amener l'aspect qu'on n'est pas juste sauvé pour nos péchés puis on va au ciel avec Dieu, mais on est continuellement besoin d'être sauvé par notre Dieu. La brebis est stupide. Elle se place souvent dans des situations qui demandent l'intervention de son berger. Elle se pogne dans une crevasse, elle est pognée dans les branches, elle est souvent mal prise. Elle tombe sur le dos, elle a de la misère à se relever. Là, tu sais. Elle devient nerveuse et facilement, elle a besoin d'être conduite vers une place où il va y avoir de la bonne nourriture. Il faut que le berger y aille un petit peu avant pour voir sûr qu'il n'y a pas un mulot qui va y sortir dans le nez parce qu'elle ne mangera pas, elle va être trop nerveuse. Il faut qu'il la conduise vers des endroits où il y a des bonnes sources d'eau, des sources qui sont bonnes pour elle. Et il va restaurer l'âme de sa brebis comme ça. Elle va avoir des bébites dans les oreilles, elle ne peut pas aller les chercher ces bébites-là. Elle va se taper la tête sur des arbres, des fois jusqu'au sang. Parce que ça la fatigue. Et puis le berger va venir mettre de l'huile dans son oreille, justement, pour empêcher ces choses-là. Elle a continuellement besoin d'être sauvée. Et ça, c'est l'image de chacun d'entre nous. Hein? On a besoin d'un sauveur, pas juste pour avoir la vie éternelle. On a besoin d'un sauveur parce qu'il est doux et humble de cœur. Puis si on vient à lui, bien, on va trouver du repos pour nos âmes. Elle a aussi des conflits avec d'autres brebis. Puis il y a des brebis qui ont des cornes. Puis ils sont un petit peu plus farouches et ils jouent de la tête. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a encore besoin d'un berger qui vient puis qui vient faire la paix ou qui vient comme diviser les brebis pour que celle qui a du caractère soit, elle lâche l'autre tranquille un peu. T'sais. Et donc, quand Dieu annonce qu'il va avoir un berger, quand Dieu annonce qu'il va avoir un sauveur dans Ésaïe, puis là, j'ai été frappé parce que tous les versets que je cherchais sur ce sujet-là m'amenaient toujours dans le livre d'Ésaïe. Toujours dans le livre d'Ésaïe. Et je me suis aperçu que dans le livre d'Ésaïe, ce que Dieu veut faire avec son peuple, c'est qu'il veut ramener la justice sociale dans son peuple. Il y a des injustices, les pauvres sont mis de côté, les gens, il y a de la méchanceté entre les individus. Puis on voit beaucoup dans Ésaïe cette idée de justice, c'est-à-dire de restaurer la paix entre les hommes. Et paix sur terre parmi les hommes qui l'aiment, hein, ou qui l'agréent. C'est ça que l'ange disait. Hein? Eh bien, quand il annonce un sauveur, il l'annonce comme un berger. Dans Ésaïe, au chapitre 40, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. » Hein? Bethléem en Juda. Là, il annonce ici aussi, il annonce ici, voici votre Dieu qui vient avec une rétribution, parce qu'il va venir pour juger, mais c'est plus tard. OK? C'est pour ça que j'ai mis les trois petits points, juste pour qu'on reste conscient de sa première venue. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein et conduira les brebis qui allaitent. Donc, Dieu ici dit, « Hey, ton Dieu s'en vient, Judas. Judas, ton Dieu s'en vient, puis il va venir comme un berger. » Alors, normalement, si j'étais une personne qui attendait le Messie en Israël, j'attendais un berger. Hein? Et les mages sont allés, et eux autres, la seule affaire qu'ils avaient entendue, c'est qu'il serait un roi. Fait qu'ils sont allés. Ils sont allés voir le roi. Ils disaient, il est où le roi des Juifs qui doit naître? Ils s'attendaient à un roi. Par contre, Israël n'attendait pas un berger. Mais eux autres, ils l'avaient l'Écriture. Tandis que les mages, ils avaient reçu une prophétie de Balaam, une seule prophétie. Ils avaient gardé ça sur un bout de napkin, si on peut dire. Puis, ils avaient gardé ça précieusement. Ils savaient qu'il y a un astre qui viendrait de Judas. Puis là, quand ils ont vu un astre qui était dans le ciel, on va en parler la semaine prochaine, bien, ils ont la seule chose qu'ils savaient, c'était que c'était un roi, puis que ce serait un roi qui viendrait en Judas. Fait que c'est normal qu'eux allaient chercher parmi les grands. Mais si Dieu veut qu'on cherche parmi les petits, parmi les humbles, d'humbles conditions, d'où c'est qu'on va aller? Vers les rois ou dans une crèche? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend des bergers, des gens d'humbles conditions, des gens qu'on fait d'eux aucun cas, des gens qui sont comme pauvres aussi. Et il dit, ces gens-là vont comprendre c'est quoi une brebis qui a besoin d'un sauveur. Hein? Et donc, eux autres, ça a rentré tout de suite comme concept, puis ils sont allés. Une autre raison pourquoi aussi, je pense, qu'il a choisi des bergers, c'est parce qu'Israël ne comprend pas. Israël ne comprend pas. Dans Ésaïe, au chapitre 1, il dit, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien et mon peuple n'a point d'intelligence. » Qu'est-ce qu'on voit? La brebis, pas la brebis, le bœuf, il connaît la crèche de son maître. Mais Israël ne connaissait pas son Dieu. Alors, Dieu lui-même était comme pas le bienvenu dans ce scénario-là. OK? Le verset qu'on avait lu avant disait « Proclamez qu'il va venir comme un berger. Hein? » Je tombe encore, je suis toujours là, je suis encore dans Ésaïe 49, je tombe toujours dans des versets. Dans Ésaïe 49, il dit ceci. Ça, c'est un psaume messianique qui annonce la venue de Jésus. Et je vais vous le lire tout simplement. « C'est pour peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, ça s'adresse à Jésus. « Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. » À l'esclave des puissants. Ça ici, ça reflète pas mal son ministère et ça, sa crucifixion. Comment il est amené, traité pire qu'un esclave, il est amené jusqu'à la mort. Ésaïe, encore une fois, chapitre 53, dit qu'on n'a fait de lui aucun cas. On a détourné le regard de lui. Et donc, c'était prévisible que si Dieu se faisait homme puis qu'il venait sur la terre comme un berger, qu'Israël le mettre de côté. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais aller me révéler à ceux qu'on a mis de côté. Quand même intéressant de faire ce parallèle-là. Mais il dit, à celui qu'on méprise, il dit, le Saint d'Israël, le Père dit à son Fils, à celui qu'on méprise, celui qui est en horreur au peuple et à l'esclave des puissants, des rois le verront et se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle. Et là, le passage lui dit que Dieu le Père va être fidèle pour lui, le Saint d'Israël qui t'a choisi. Il choisit, qui t'a choisi, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, au jour du salut, je te secourrai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples. Et c'est lui qui est venu faire une alliance en son sang, pour relever le pays, pour distribuer des héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages. » Et encore une fois, Isaïe dit ici que le Messie qui va venir va être en horreur au peuple, qui va être traité moins qu'un esclave, qu'on va le mépriser, mais qui est choisi par Dieu et qui va venir faire paître son peuple. Et il dit, « Celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers les sources d'eau. » C'est intéressant lorsque je veux revenir à cet aspect-là de l'Évangile de Luc. Luc, c'est un docteur, c'est un historien aussi, mais dans l'Évangile de Luc, on s'aperçoit que ceux qui sont mis à l'écart sont replacés en avant. Ceux qui sont mis à l'écart sont replacés en avant. Par exemple, les femmes. Les femmes, au temps de Christ, sont considérées comme inférieures aux hommes par les hommes. Et alors Jésus, ce qu'il fait, prend la femme Marie, puis il lui donne la première place. Il nous dit que c'est à Marie qu'il apparaît pour lui annoncer qu'elle va enfanter. Dès les premiers chapitres, il apparaît à Marie. Plusieurs femmes sont guéries dans le livre de Luc. La femme est courbée, une femme qui avait la perte de sang. On voit que le fils de la veuve de Naïm est ressuscité, hein, cette pauvre veuve qui avait plus de revenus. On voit que Jésus-Christ, dans le livre de Luc, c'est comme Jésus est venu s'occuper de ceux qu'on avait mis en marge. Hein? Et les infirmes, étaient considérés comme impurs et inaptes à pouvoir servir Dieu. Et on les appelait d'une certaine manière les intouchables aussi. Donc, beaucoup de guérisons. Luc, c'est celui qui donne le plus de guérisons parce qu'il est aussi docteur puis il est intéressé par ça. Les lépreux étaient considérés comme punis par Dieu à cause d'un péché de rébellion. Guérison des 10 lépreux. Qu'est-ce qu'on voit? On voit plein de choses comme ça. Le possédé de Gadara qui vivait dans les sépulcres. Les pauvres. Et là, j'ai répertorié quelques versets intéressants. Il y a une parabole où il y a un banquet. Puis là, le gars qui fait le banquet, il invite plein de monde. Puis ils ont tout quelque chose à faire de plus important. Puis il dit, « Bien, d'abord, allez donc vers les pauvres, vers ceux qui sont maganés. Tu » sais. Dans les Béatitudes, quand que Matthieu en parle, il dit, « Heureux les pauvres. » Dans Luc, il dit, « Heureux parce que vous êtes pauvres. » Parce que vous êtes pauvres. Hein? Il donne des promesses directement à eux. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quand Jean-Baptiste, il demande, « Es-tu vraiment le Messie qui doit venir? » Dans Luc 7, 22, il dit, « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Il y a d'autres choses, mais il y a certainement ça. Quand il parle dans 14, 13, il parle d'un banquet. Il dit, « Quand tu fais un banquet ou que tu fais une bonne bouffe, invite pas ceux qui peuvent te le rendre. Invite ceux qui ne peuvent pas te le rendre. » Puis là, il va dire, « Invite les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. » Jésus, dans chapitre 21, verset 2, il voit une femme âgée qui amène un petit peu d'offrande, mais elle a donné de son nécessaire. Puis Jésus va mettre l'emphase sur le fait que de sa grande pauvreté, elle a donné beaucoup. T'sais. On voit Luc, qui nous montre un sauveur qui n'est pas juste venu nous sauver pour la vie éternelle en mourant à notre place sur la croix, mais un sauveur qui, comme un berger, vient paître son troupeau puis vient prendre soin de chacune de ses brebis. Et donc, les gens de mauvaise vie, c'est dans Luc qu'on voit ça, deux hommes qui montent à la prière, il y en a un qui est un publicain, qui a probablement usurpé de l'argent, puis tout ça, puis il se frappe la poitrine, puis il dit, « Sois apaisé envers moi qui suis un pauvre pécheur. » Puis l'autre qui dit, « Hey Seigneur, moi je te remercie que je jeûne deux fois par semaine, que je donne ma dîme, puis moi je te remercie que je ne suis pas comme lui. » Et la raison pour laquelle cette parabole-là est donnée dans Luc 18 au verset 8, c'est la raison suivante. Il dit encore une parabole en vue de certaines personnes qui, se persuadant qu'ils étaient justes, ne faisaient aucun cas des autres. Et donc, Jésus, il veut venir nous sauver du péché, mais il veut venir nous sauver des impacts que le péché a dans une société qu'on a rejeté Dieu et on rejette l'autre. Et donc, en tant que croyant, on a besoin de comprendre qu'être la lumière du monde, ce n'est pas juste d'annoncer qu'on peut avoir le pardon en Jésus-Christ, mais c'est aussi que l'amour de Dieu est offert à ceux que la société a mis de côté. Les gentils, c'est des bonnes personnes, hein? Je veux dire, c'est gentil dans le sens qu'ils étaient non-juifs par le peuple juif, étaient vus comme non-spirituels, souillés et indignes de la gloire de Dieu. Il y avait un parvis qui s'appelait le parvis des gentils. On retrouve encore des traces archéologiques. C'était écrit « Si tu traverses, tu meurs » sur ce mur-là. Et puis, ils étaient donc considérés comme indignes de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit dès les premiers passages de Luc? On voit l'image. Des hommes d'Orient, des hommes riches d'Orient, qui amènent leur richesse, puis sont mentionnés. C'est où est-ce qu'on voit la parabole du bon samaritain? On la voit certainement dans Luc. Jésus dit, comment je pourrais... Je veux montrer que c'est inéquitable dans la société, puis qu'il y a des gens qui sont supposément des hommes de la parole. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Ah oui, on prend l'image d'un samaritain qui a été laissé en plein. On va prendre l'image, c'est qu'il y a eu des serviteurs qui arrivent du temple puis ont fait leur messe là, ou leur célébration ou leur culte. Et là, ils passent devant, voient le gars qui s'est fait battre comme à mort. Puis, eux autres, dans leur cœur, disent, « Ben, gars, j'ai fait mon devoir. Je suis allé au temple, j'ai fait... » Ils ont réduit leur religiosité à leur service pour Dieu dans le bâtiment ou dans la religion. Et là, ils arrivent puis ils passent à côté de ce gars-là, puis ils continuent leur chemin. Deux comme ça. Puis l'autre, c'est un Samaritain, mais le Samaritain, il faut comprendre qu'eux, ils avaient une montagne, le mont Gérasim, puis ils avaient été frustrés de ne pas pouvoir participer à la construction du Temple de Jérusalem. Fait que ça en était fait un autre, puis il y avait un mélange du Dieu d'Israël puis les idoles avec ça dans le Temple. Là. C'était vraiment n'importe quoi. Il dit, il y avait un bon, puis il appelle ça, Jésus dit, le bon samaritain. Hey, ça, c'était assez pour faire sauter la coche de n'importe quel juif, tu sais, le bon samaritain. Ouais, mais lui, le bon samaritain, il était bon envers son prochain. Il l'a pris, il l'a soigné, puis il l'a amené. Tu sais. Et donc, ce que Jésus fait ici, par la parabole du bon samaritain, bien, Luc, au travers de l'histoire de Jésus, c'est de prendre ceux qu'on méprise, parce qu'ils n'ont pas notre religion, ils n'ont pas nos croyances. Puis il a fait quelque chose de bon, ce gars-là. Puis il la remet comme au centre de l'histoire. Donc aujourd'hui, c'est ce qui me fait réfléchir à propos de notre Sauveur, c'est qu'il vient nous sauver des injustices dans le monde. OK? Et donc, quand Jésus commence, je pense que c'est le premier verset, si je ne m'abuse, je pense que c'est la première citation des Écritures de notre Seigneur Jésus. Mais je ne suis pas certain, il faudrait que je le vérifie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans le temple, puis il va dérouler un rouleau, puis il va citer encore une fois Isaïe. Il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint ou choisi, pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Et ici, il y a encore une période de jugement qui reste encore à venir, et pour consoler tous les affligés. Intéressant. Le Seigneur dit qu'il est venu pour les malheureux. Il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour ceux qui sont captifs, prisonniers, hein? Et tous ceux qui sont affligés. Maintenant, comment est-ce que j'emballe tout ça avec mon message? Romains 12, 16 dit, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu venir. Ce Dieu-là que les cieux ne peuvent contenir, qui était dans une crèche, dans une place où il n'y avait pas d'hôtellerie. Bien, je pense que le royaume de Dieu aussi, aujourd'hui, c'est un petit peu la même affaire. C'est qu'on a besoin de se laisser attirer par ce qui est petit et humble. Servir Dieu, c'est servir son prochain. Puis, Vous savez, quand j'étais plus jeune, puis j'ai commencé le ministère, ma vision, 10 églises en 10 ans. C'est 10 églises en 10 ans. On est capable. Puis là, je faisais des calculs mathématiques, puis là, je faisais des présentations PowerPoint, tu sais. Puis la seule chose que j'ai été capable de voir, c'est une église en 13 ans qui est encore debout, mais qui a été réduite. Notre énoncé de vision, c'était au début élever Dieu et le servir dans notre génération. C'est comme, comment on fait ça, servir une génération? On sert notre génération. Tu sais. Mais ce n'était pas pratique. Fait que là, le creuset de l'épreuve, le creuset des difficultés nous a amené à ce point, à cet énoncé suivant. Élever Dieu et le servir une personne à la fois. Là, on se rapproche un petit peu plus de notre Seigneur. Qui dit, je viens pour le malheureux, pour le captif, pour le jeune ou le vieillard. Hein? Et donc, on se rapprochait de plus en plus de l'énoncé de qu'est-ce que devrait être un témoin et une église. Puis, plus tard, est arrivé ce mot-là qui est important, élever Dieu et le servir avec joie une personne à la fois. Mais on peut faire ça quand on est attiré par ce qui est humble. Une personne à la fois. Une personne à la fois, ce n'est pas une foule, il n'y a pas personne. Tu vas peut-être mourir, personne à part cette personne-là va savoir que tu as fait quelque chose pour elle. Mais c'est ça, servir Dieu. Hein? Et donc, j'ai entendu, si nous étions, et je l'ai cru aussi, que si on était une grande église, on serait plus populaire et il y aurait plus de gens qui viendraient. Mais la question, c'est quel genre de personnes qui viendraient? Est-ce que c'est des gens qui se laissent attirer par l'entertainment, une bonne chorale? C'est quoi qui ferait que les gens resteraient et qu'il faudrait les garder dans ce momentum-là? En passant, 10 églises en 10 ans, savez-vous qu'est-ce que j'ai entendu comme phrase? Des gens qui venaient me voir et disaient « Hey, tu sais pas quoi? » L'autre, il pense qu'il va être un des 10 pasteurs des églises. Puis là, après ça, j'ai su que l'autre, il convoitait vraiment de devenir un pasteur, tu sais. C'était correct de vouloir ça, mais l'idée, c'est-tu, on veut-tu servir les gens ou c'est quoi qu'on veut faire? Fait que j'ai réalisé que je faisais gonfler l'orgueil du monde avec ces visions de grandeur-là, puis tout ça, mais qui va s'enorgueillir de dire « j'ai servi 10 personnes, j'en ai servi 15, j'ai été l'esclave de 20 personnes ». Personne ne va s'enorgueillir de ça parce que servir veut dire placer les intérêts de l'autre avant les miens. Et donc, se laisser attirer par ce qui est humble, c'est de vouloir manifester Jésus-Christ dans mon travail, dans ma famille, dans un lieu où ce que je suis, là où ce que Dieu vous a placé, l'Église. Si vous pensez que l'Église est celle qui va faire des disciples, bien ça, c'est un peu comme un parent qui amène ses enfants à la garderie puis il dit « enseignez-les, montrez-leur toutes les valeurs de cette vie ». Puis là, on laisse à la garderie ou à la TV d'enseigner nos enfants. Puis on sait très bien enseigner ses enfants, ce n'est pas de les donner à une garderie ou à une gardienne, c'est de s'investir soi-même dans son enfant. Et le christianisme, il est devenu malade parce qu'on s'est attendu que nos églises deviennent attrayantes pour qu'on ne soit pas obligé d'être attrayant. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens veulent avoir de notre Seigneur, en fait, ils veulent avoir ce que nous avons. Ils veulent notre paix. Ils veulent ce Dieu qui répond à nos prières. Ils nous demandent des prières de temps en temps. T'sais. Ils veulent avoir le Dieu qu'on a. Si quelqu'un là, il a vu que tu avais la paix au travers on sera deux ici. Il veut avoir ce que tu as. Il ne veut pas avoir une foule avec un amuseur qui vient en avant puis toute la grosse affaire là en avant. Une personne qui veut de ton Seigneur va vouloir avoir de ce qui est fait pour toi. Et donc, les idées de grandeur, des fois, je ne sais pas où ça nous amène, mais moi, je suis confortable d'être dans une petite église aujourd'hui. Je suis confortable avec ça. Est-ce que j'aimerais ça qu'il y en ait plus qui soient sauvés puis qui entendent parler de l'Évangile? Oh oui, mais en. Mais en même temps, il faut que je me laisse attirer par ce qui est humble. Puis notre Seigneur Jésus, pourquoi il n'est pas né dans un palais, lui? Puis s'il serait né, me semble, dans un palais des grandes personnes de Judée qui avaient du renom, me semble que ça aurait donné du push à sa campagne. Non! Il apparaît à des gens qui sont reclus de la société, des gens qu'on ne veut rien savoir de leur témoignage. Il apparaît à ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent dans ces gens-là des gens qui comprennent c'est quoi un berger. Ils comprennent qu'une brebis, ça se met dans le trouble tout le temps et ça a besoin d'un berger. Mais eux autres sont aussi ces gens-là qui ont besoin d'un berger. Et donc, l'Église a le besoin, tu sais quoi, de revenir à ses bases et de dire, OK, attends une minute là. Peut-être que dans le fond, Jésus n'a pas besoin d'une campagne de publicité pour son Église. Il a peut-être juste besoin des gens humbles qui n'essayent pas de s'en faire à croire, mais qui vivent leur foi dans le monde. Ce qui m'a frappé dernièrement, c'est que je m'investis dans mon milieu, puis il y a quelqu'un qui m'a. Puis je priais pour une personne en particulier. Puis c'est la personne qui m'a demandé la permission de venir. C'est cool, ça, quand la personne te demande la permission pour venir à l'Église, tu sais. J'ai réfléchi, puis je me suis dit, je m'en fous-tu que l'Église soit grosse ou qu'elle soit petite, parce que ce qu'il a vu, il l'a vu sans l'Église. Il a vu, à quelque part, qu'il y a quelque chose qui me faisait du bien, qui pourrait peut-être faire du bien à cette personne-là, n'est-ce pas? Et donc, c'est un appel à être humble et à laisser ce Dieu-là nous habiter et à faire de nous la saveur de l'Évangile dans le monde. Et donc, Jésus paraissait pour un fils de fornication. Je veux dire, choisir une fille qui n'est même pas encore couchée avec un homme, ça va avoir l'air de quoi, cette histoire-là? Je veux dire, si tu veux partir une histoire à succès, c'est vraiment pas bien parti, Jésus. Tu as choisi une femme qui paraît pour avoir eu une fornication. Il va se faire appeler plus tard le fils de la fornication. Puis les gens vont refuser de croire en lui à cause de ça. Jésus est devenu populaire ou aimé par le fait qu'il aimait les gens une personne à la fois. C'est à cause de sa grâce, c'est à cause du pardon, c'est parce qu'il aimait les hommes sans distinction. Et c'est ce qui va rendre le christianisme « populaire », entre guillemets, c'est que les gens vont voir que Jésus ne fait exception de personne. Puis je veux dire, il va voir le gars qu'on rejette, là, celui qu'on a tendance à ne pas tourner le regard vers lui, là, puis que toi, tu vas y aller, tu vas l'inclure, puis tu vas l'appeler ton ami. Tu vas briser les paradigmes, les jugements qu'il y a dans la société contre ceux qu'on rejette. La grâce de Dieu va devenir accessible et ils vont voir au travers de ta vie que Dieu aime les hommes sans exception de personne. La réponse d'aujourd'hui pour notre témoignage, c'est de se laisser attirer, pas par ce qui est élevé. Quand tu fais un banquet, ne sois pas juste ceux qui veulent te recevoir. C'est ça que Jésus nous disait. Donc, c'est un défi aujourd'hui de se laisser attirer par ce qui attire Dieu. Dans Ésaïe encore, je vous dis, là, je cherchais des versets seulement par rapport à la vérité que je savais, puis ma concordance me ramenait encore dans Ésaïe, tout le temps dans Ésaïe. Ésaïe 57, 15 dit, « En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom est saint. J'habite dans les hauteurs et dans la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu et redonner vie au cœur brisé. » Dieu n'est pas dans le frappe à l'œil. Il n'est pas dans tout ce qui paraît. Il voit quelqu'un qui est affligé, qui croit en lui, il est près de cette personne-là. Il est près de vous. Et donc, notre défi, c'est de découvrir l'Évangile dans son aspect social ou dans les réalités avant-dernières. On a eu beaucoup de cours sur le fait, justement, que les réalités dernières, c'est-à-dire il va y avoir la fin du monde, ceux qui ne croient pas en Christ vont être séparés de lui, de Dieu pour l'éternité. Ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ vont avoir la vie éternelle. Ça, c'est les réalités dernières. Mais il y a ces réalités avant-dernières. C'est découvrir l'Évangile dans son aspect social. C'est de s'approcher de quelqu'un qui a une vie brisée, soit dans la pauvreté physique ou morale, soit qui a été délaissé, soit qu'il y a des cœurs brisés. Et nous faisons présentement à l'Église un projet d'économie sociale, c'est-à-dire que nous sommes en train de regarder à travailler avec d'autres organismes dans la ville pour aider les gens à sortir de la pauvreté, finalement, par des meubles, Et l'espace ici servirait à faire aussi du recyclage de ce qui était peut-être quelque chose qui allait au rebut, qui va être finalement réutilisé, puis ça va aider des gens à revenir dans l'emploi, à sortir de peut-être le bien-être social ou puis améliorer un petit peu leur sort. Alors, on est en train de travailler sur des projets comme ça. C'est embryonnaire pour le moment, mais priez pour ça parce qu'on pense vraiment que l'Évangile, c'est pas juste d'annoncer la croix, mais c'est annoncer aussi qu'il n'y a pas de séparation de classe entre ceux qui ont mieux réussi. Puis, toi, tu es en pauvreté parce que, regarde, tu as fait des mauvais choix. Oui, peut-être. Peut-être c'est de la négligence, peut-être de la rébellion, peut-être c'est des mauvais choix, mais sais-tu quoi? Il y a des gens qui sont pas nés sur la bonne étoile. Et donc, on va voir qu'est-ce que Dieu a pour nous là-dedans. Mais aujourd'hui, on a besoin, et l'Évangile nous montre aujourd'hui que Dieu est intéressé à l'aspect social du salut, c'est-à-dire de venir nous sauver dans un monde sans Dieu. Et donc, l'annonce a été faite à des gens qui étaient en marge de la société. Eh bien, nous, il faut faire de la place aux gens qui souffrent. Encore une fois, ça c'est mon dernier verset, presque mon dernier. Vous le lirez à la maison, mais je vous lis. Soyez juste attentifs. Ésaïe 58, 6. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Qu'on brise toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors, regardez bien la promesse, alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel et il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Encore une fois, Ésaïe, c'est comme « Répare les choses dans une société qui ont mis des gens à l'écart. Répare ça, puis je vais être avec toi. » C'est merveilleux, ça. Donc, accepter de suivre Jésus, c'est aussi accepter son impopularité. Pourquoi vouloir être populaire? Pourquoi vouloir être comme la chose en ville? Paul, il disait aux Corinthiens, il disait, « Jusqu'à 7 heures, nous souffrons de la faim, de la soif, de la nudité, nous sommes maltraités, errant ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. » Calomniés, nous parlons avec bonté et nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Sais-tu quoi? Peut-être que tu vas t'afficher de plus en plus comme un disciple de Jésus, puis les gens vont en vouloir de moins en moins de ta personne. Je suis passé de l'autre côté. Avant, je ridiculisais. À cette heure, je parle de Jésus dans mon milieu. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? La même affaire que je faisais aux autres, c'est-à-dire que je suis ridiculisé. Mais mon but, là, tu sais, moi, dans mon cours de philosophie, puis je termine avec cette histoire-là, qui était passée. Moi, dans mon cours de philosophie, quand il y avait des choses qui n'avaient pas de bon sens, qui se disaient, je levais la main, puis je disais, oui, mais ça, 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 ça. Puis à un moment donné, il y a des gens qui ont dit en arrière, es-tu fatiguant, ce gars-là? Il parle tout le temps. Puis au dernier cours, c'était l'avortement. C'était 2h30 sur l'avortement. Puis la prof, je ne pensais pas qu'elle pensait que j'étais aussi préparé que ça, là. Mais j'y ai fait tous les pires arguments qu'elle pouvait avoir à défendre. Puis je me disais, il y a peut-être, à cette heure, vous savez, au Québec, la professeure de philosophie disait que 50% des naissances finissent en avortement. Les grossesses. Les Québécoises s'en servent comme un moyen de contraception. Là, il y a la pilule abortive qui est sortie là, vendredi, là, est rendue légale. Tu peux avorter à partir de 9 semaines, jusqu'à 9 semaines, c'est ça? Puis tu parles, puis tu te fais haïr. Là, il y a des filles qui se sont levées pendant que je parlais, tu sais. Mais j'ai quand même parlé de... Puis, c'est parce que l'affaire, c'est que si on ne se laisse pas attirer par ce qui est humble, on ne parlera pas. Parce qu'on ne sera pas populaire à un certain moment. Et il faut prendre le lot qu'on va être ridiculisé, puis que si on est différent, trop différent du monde, le monde va faire ça comme ça. Platon, dans sa, dans une de ses écrits, bien avant Jésus-Christ, il avait dit, l'homme parfait, il avait dit que si l'homme parfait viendrait, les rois de la terre se lèveraient contre lui. Il avait tout écrit à peu près ce qui s'est passé à la crucifixion. Il serait tellement parfait qu'il viendrait mettre en lumière nos imperfections, puis on voudrait juste tout, les mettre dans un coin. Bien, si on se laisse attirer par ce qui est humble, on va accepter aussi, comme Paul a dit, on est les rebuts de la société. On est comme les balayeurs. Tu sais, c'est comme, ah, pas besoin de ça dans notre monde. Tu sais. Et pourtant, les chrétiens sont ceux dont le monde n'est pas digne, puisqu'on a la dignité d'avoir reçu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu sais. Mais en attendant, en tant que croyant, c'est quoi qui nous permet de continuer à persévérer, même dans les petites choses? C'est d'être attiré par ce qui est humble. Et ce qui est humble, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de notre Dieu, mais c'est des poqués puis des cœurs brisés. C'est pas nécessairement... Puis ça peut se cacher derrière la réussite en affaires, des gens qui ont réussi très bien en affaires, mais que la seule affaire qu'ils ont comme vêtement pour se cacher devant un Dieu saint, c'est qu'ils ont réussi en affaires. Alors que leur vie intérieure est un désastre. Ils cumulent quelques divorces et adultères. Ils ont cumulé plein de souffrances qu'ils se sont infligées et ont infligées à d'autres. Ils ont besoin désespérément du pardon. Ils ont l'air d'avoir du succès, mais à l'intérieur, ils ont vraiment besoin d'être pardonnés. Tu sais. Donc, c'était le message sur les bergers. J'espère que ça l'a pu vous bénir. Puis, peut-être, avec moi, vous aider à découvrir l'aspect social de notre salut en Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, tu es venu, Seigneur, pas juste pour payer la dette de nos péchés, mais tu es venu, Seigneur, parce que tu voyais un monde qui est injuste, un monde qui est divisé par le péché, tout le monde essayant de se montrer mieux que l'autre. Mais ça a fait des victimes, ce système-là. D'ailleurs, tu disais qu'Abel, le sang d'Abel criait de la terre jusqu'à toi parce que quelqu'un qui avait vécu une injustice de la part d'un frère jaloux. Et combien, Seigneur, montent jusqu'à toi ces cœurs brisés, Seigneur Dieu, ces vies brisées. Et que tu nous promets, Seigneur, que tu es un berger pour nous et que tu vas prendre soin de nos cœurs et de nos situations, que tu vas nous conduire. Aide-nous à être attirés par cet aspect-là de ta personne qui est doux et humble de cœur. Aide-nous aussi en tant qu'Église à être attirés par ce qui est humble, par ce qui est petit, par ce qui ne frappe pas les regards, comme dans Ésaïe, quand tu dis « il n'avait rien pour éclater ou frapper les regards ». Parce qu'on risque de passer à côté de toi, comme les gens à Jérusalem qui n'ont pas attendu ta venue, Seigneur. Le bœuf connaît sa crèche, mais Israël ne connaissait pas sa crèche. Merci d'avoir visité d'en haut la terre il y a 2000 ans. Puis merci, Seigneur, d'être vivant et présent dans ton Église aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. On va finir avec un...
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.